dans Focus Sahel, en direct de Washington sur VOA Afrique, avec Eric Manirakiza.
Bonsoir et bienvenue dans Focus Sahel pour une perspective unique sur la région. Chaque semaine, nous explorons les nombreuses facettes de la vie au Sahel. Au menu ce soir, Burkina Faso, Mali et Niger scellent une confédération lors du sommet de Niamey vers une nouvelle dynamique d'intégration régionale. Quel rapport entre l'Alliance des États du Sahel et la CEDEAO ? Nous en parlons dans un instant. Apaisement du climat politique au Mali. Les autorités lèvent la suspension des activités des partis politiques. C'est un reportage de Mohamed Danioko. Toujours au Mali, incarcération de Youssouf Daba Diawara, un proche de l'influent imam Mahmoud Diko, figure tutélaire d'un mouvement de contestation qui a précédé la chute du président civil Ibeka, renversé par un coup d'état militaire en 2020. Nous en parlons dans notre fait marquant de la semaine. Solidarité à Ouaïlouia au Burkina Faso. Nous verrons comment une association des jeunes aide les déplacés internes à retrouver espoir. Vous pouvez également nous suivre en direct sur Facebook. Je suis ravi que vous vous joigniez à nous dans ce voyage de découverte et de dialogue. Encore une fois, bienvenue. Les régimes militaires du Burkina Faso, du Mali et du Niger ont officialisé la création d'une confédération lors d'un sommet à Niamey. Ce sommet marquait la première réunion des présidents de l'Alliance des États du Sahel, AES en sigle, établie en septembre 2023. Cette alliance, regroupant environ 72 millions de personnes, représente un pas vers une intégration renforcée et un éloignement progressif vis-à-vis de la CEDEAO. Les relations entre l'AES et la CEDEAO seront essentielles à surveiller dans les prochains développements régionaux. Les précisions avec Abdourahmane Dia.
Les trois hommes ne montrent aucune intention de reculer. Vêtus de leurs uniformes militaires, ils se sont rendus au centre de conférence de Niamey, où le sommet s'est tenu sous haute sécurité. En ouverture du sommet, le chef du régime militaire nigérien, Abdourahmane Tchiani, a déclaré que les peuples de leurs trois pays avaient irrévocablement tourné le dos à la CEDEAO. Le général Tchiani s'exprimait devant ses homologues burkinabés, le capitaine Ibrahim Traoré, et malien, le colonel Assimi Goïta.
Il nous appartient aujourd'hui de faire la confédération Alliance des États du Sahel. Une alternative à tout regroupement régional factice en construisant une communauté souveraine des peuples.
Assimi Goïta a lui affirmé que les armées des trois pays collaborent pleinement pour faire face aux attaques terroristes.
Je tiens à insister sur la notion d'espace commun. Pour saluer la clairvoyance de mes frères, le président Tchiani et Traoré, qui avaient pris les mesures nécessaires pour autoriser les droits de poursuite sur leurs territoires respectifs afin de traquer efficacement les groupes armés terroristes sans contrainte liée aux frontières nationales.
Le capitaine Traoré avait précédemment déclaré que l'Afrique souffre toujours du fait des impérialistes.
Ces impérialistes n'ont qu'un seul cliché en tête. L'Afrique est l'empire des esclaves. C'est comme ça qu'ils voient l'Afrique. Pour eux, les Africains les appartiennent. Nos terres les appartiennent. Nos sous-sols les appartiennent.
La CEDEAO a tenu le lendemain un sommet de ses chefs d'État à Abuja, au Nigeria, où les relations avec l'AES étaient au cœur des discussions.
Nous avons convoqué cette session ordinaire une fois de plus pour examiner la situation dans notre région. Nous sommes conscients des défis énormes, y compris les activités terroristes et l'extrémisme violent qui menace de se propager de la région du Sahel vers les États côtiers. en particulier ceux qui ont connu des changements anticonstitutionnels des gouvernements. La décision des trois pays du Sahel, à savoir le Burkina Faso, le Mali et le Niger, de se retirer de la CEDEAO a également été constatée.
D'après Omar Touré, patron de la commission de la CEDEAO, la région risque la désintégration et l'aggravation de l'insécurité.
La situation se complique davantage. Notre région est devenue l'arène de rivalités géostratégiques et géopolitiques et le théâtre d'une désinformation qui engendre la méfiance entre les communautés et au sein de celles-ci également et qui sape la cohésion sociale.
Les relations AES-CEDEAO se sont détériorées après le coup d'État du 26 juillet 2023 contre le président Mohamed Bazoum au Niger. La CEDEAO avait alors pris de lourdes sanctions économiques contre le Niger et menacé d'intervenir militairement. Malgré la levée des sanctions en février, les relations restent glaciales, malgré les appels au dialogue des présidents mauritaniens et sénégalais notamment.
Aujourd'hui, la CEDEAO est en difficulté. Je ne me fais pas d'illusions, j'y vais avec beaucoup d'humilité. Je vais faire en compagnie de mes pairs et sous la supervision de la CEDEAO ce que je crois devoir faire, à savoir dialoguer, discuter, travailler à réconcilier les positions. Là, j'ai la chance ou la malchance de ne pas avoir été là quand ces sanctions-là étaient en train d'être prises et qui ont envenimé les rapports entre la CEDEAO et les États de l'Alliance du Sahel. Quand je suis arrivé, on me pointe de ces États-là, ne me regarde pas comme quelqu'un qui a été parmi ceux qui les ont sanctionnés. Donc ils ont une facilité à me parler plus qu'ils ne peuvent en avoir pour les autres.
Les pays de l'AES ont fait de la souveraineté une ligne directrice de leur gouvernance. Ils ont tour à tour chassé les soldats français, se tournant vers la Russie, la Turquie et l'Iran, qu'ils qualifient de partenaires sincères. Le Niger a également poussé les soldats américains vers la sortie, tandis que le Mali a fait de même avec la mission de l'ONU, la MINUSMA.
Nous approfondissons la discussion avec Ibrahim Khan, analyste du bureau ouest-africain de l'ONG Ossiwa. Monsieur Khan, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, vous avez suivi les deux sommets. Quels sont les défis potentiels que pourrait rencontrer l'AES dans sa tentative de se positionner comme une alternative crédible à la CEDEAO?
Alors, ce qui est quand même curieux pour une organisation qui veut s'ériger en alternative à la CEDEAO, c'est que l'AES, aujourd'hui, en tout cas si on se réfère à la réunion qui a lieu à Niamey, c'est juste une architecture de défense collective et d'assistance mutuelle des États. Donc elle est une structure militaire avant tout. Elle n'a pas vocation à régler des problèmes économiques, elle n'a pas vocation à régler d'autres problèmes que la CEDEAO, qui sont au cœur de l'agenda de la CEDEAO. Donc, c'est vous dire que l'AES est déjà limitée dans son mandat. Et ça va créer un certain nombre de problèmes parce que tous les autres problèmes, autres que militaires, que l'AES doit régler, il doit le régler conformément à l'agenda de la CEDEAO, mais pas au propre agenda des pays de la région. Donc ça crée vraiment un sérieux problème et je pense que le conflit actuel qu'il y a entre le Niger et le Bénin montre à suffisance que l'AES, si en tout cas la tentative de réconciliation n'est pas concluante, l'AES risque de s'exposer à de sérieuses difficultés dans les mois et les années à venir.
Les trois pays ont mentionné qu'ils vont créer une banque de développement. Monsieur Khan, comment les relations entre l'Alliance des États du Sahel et la CEDEAO pourraient-elles évoluer à l'avenir, notamment en termes de commerce et d'intégration économique et régionale?
Alors, il y a deux choses à savoir. La première chose, c'est que ces États, les trois pays qui aujourd'hui ont créé l'Alliance des États, sont aussi membres de l'UMOA, l'Union Monétaire Économique Ouest-Africaine. Leur sortie de la CEDEAO n'implique pas leur sortie de l'UEMOA. L'UEMOA va continuer à fonctionner. Ce qui veut dire que avec les 5 autres pays de l'UEMOA, ils vont continuer à travailler ensemble. Le système bancaire va être le même. La libre circulation va être la même chose qu'avant. Mais avec les autres pays qui ne sont pas membres de l'UEMOA, à savoir la plupart des pays anglophones et la Guinée, là, ça va poser de sérieux problèmes parce qu'il va falloir négocier, comme l'a fait l'Angleterre en sortant de l'Union européenne, avec la CEDEAO pour trouver des règles communes. Et comme ces États-là sont tous des États qui n'ont pas de frontières, qui n'ont pas de façade maritime, ça risque encore de poser de sérieux problèmes parce que toutes ces questions-là vont être réglées suivant les règles, suivant les normes imposées par la CEDEAO. Et là, ils sont en mauvaise posture dans la mesure où c'est eux qui sont demandeurs. Et la CEDEAO va gérer les problèmes à l'avantage de ses membres. Et ça risque aussi d'être un problème sérieux, d'autant plus que vers le nord, ces pays-là, l'Algérie a des problèmes avec le Niger, l'Algérie a le problème avec le Mali, donc les négociations vont être difficiles. Le Maroc leur a proposé cette stratégie de s'ouvrir à l'Atlantique, mais cette stratégie-là aussi, elle n'est pas immédiate, elle risque de poser beaucoup, beaucoup, beaucoup de difficultés à cause de la situation géographique de ces pays, parce qu'il faudra passer de toute façon par la Mauritanie pour accéder à l'Atlantique, et ça va aussi créer des problèmes. Donc, j'entrevois beaucoup de difficultés pour ces pays-là dans les mois à venir si ils décident de quitter effectivement la CEDEAO, qui ne sera effective d'ailleurs qu'à partir de janvier 2025.
Alors, en quoi l'initiative de l'Alliance des États du Sahel pourrait-elle remodeler les dynamiques géopolitiques et sécuritaires au Sahel, en particulier face à la menace persistante des groupes terroristes et des conflits intercommunautaires?
Alors, ces trois pays ont quand même quelque chose en commun. Ils ont tous dénoncé leurs relations militaires avec la France et ont noué de nouveaux accords avec la Russie. Vous savez bien avec moi que la Russie n'a pas d'intérêt stratégique à proprement parler dans cette région-là. La Russie n'a d'intérêt qu'à créer des problèmes aux autres pays qui lui créent aussi des problèmes en Ukraine. Ça peut jouer. Mais la Russie, en même temps, a aussi des intérêts économiques dans la région. Le Nigeria, par exemple, est un grand partenaire militaire de la Russie. Le Sénégal aussi est un partenaire économique et même parfois militaire de la Russie. Et donc, si ces pays-là pensent qu'il y a une sorte de basculement géopolitique de la région, ça va être difficile à envisager parce que en ce moment-là, la Russie va peser. Je ne pense pas qu'il y ait photo entre les intérêts économiques de la Russie dans un pays comme le Nigeria et les intérêts économiques avec les trois pays que la Russie pratiquement soutient du bout des bras. Donc je pense que actuellement on est dans une période de négociation, ça va être des négociations dures puisque c'est des régimes militaires que la CEDEAO veut obliger à se civiliser et qu'il refuse maintenant ce retour rapide à l'ordre constitutionnel. Mais en dehors de cela, je ne vois pas ce que la création des États de l'Alliance va fondamentalement changer dans la sous-région. Sinon, isoler trois pays qui sont en prise avec beaucoup de difficultés économiques, de difficultés d'ordre militaire et aussi de difficultés d'ordre social. Parce que n'oubliez pas que ces pays-là sont dans des sortes de guerres civiles, que ce soit au Mali, que ce soit au Burkina Faso ou au Niger, c'est des populations de ces pays-là qui se soulèvent contre l'ordre politique.
On regarde justement de la gestion actuelle de la liberté de presse et d'association par ces régimes militaires du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Quelles sont les perspectives d'évolution dans le cadre de leur nouvelle confédération au sein de l'AES en une minute?
Ah, mais l'évolution va être très dure parce que ces régimes-là ont montré en peu de temps qu'il n'en avait rien à faire avec les règles et principes de la démocratie et qu'il voulait tout mettre en œuvre pour pratiquement mettre tout le monde au pas. Et cela pose de sérieux problèmes pour le retour au niveau de la CEDEAO, parce que la CEDEAO ne va pas quand même renoncer à des principes qu'on a mis plus de 40 ans, 50 ans à mettre en œuvre pour simplement faire plaisir à trois pays de la sous-région qui sont sous des régimes militaires et que ces régimes militaires sont nécessairement appelés à retourner à l'ordre constitutionnel normal. Donc vous voyez que ça va être encore ici un autre problème, une autre épine dans les pieds des États, des dirigeants de ces trois pays-là.
Merci beaucoup, Monsieur Ibrahim Akan. Je rappelle que vous êtes du bureau ouest-africain de l'ONG Osiwa. Nous avons quelques commentaires de nos téléspectateurs sur Facebook. L'Océanie Keïta, il dit ceci. Les pays du Sahel n'ont jamais eu suffisamment d'influence au sein de la CEDEAO. Par exemple, lorsque ATT était au pouvoir, il avait sollicité l'aide des autres membres pour combattre le terrorisme au Mali sans succès. Certains pays pensent que la survie du Sahel dépend d'eux, surtout parce que ces pays n'ont pas d'accès à la mer. Cette situation a souvent conduit à une marginalisation des préoccupations des pays du Sahel au sein de la CEDEAO. L'influence de la France dans les décisions prises au sein de la CEDEAO était également notable. Depuis la crise en Libye, le Sahel a été laissé à lui-même et cela pourrait être perçu comme un complot contre le Mali. La réalité de l'AES s'impose aujourd'hui. Les deux organisations doivent maintenant se concentrer sur le sort des populations plutôt que de proférer des menaces inutiles. José Maya, il dit ceci, la Confédération prône l'Union pour renforcer sa position, mais aucun de ses membres ne représente un poids économique significatif dans la région. Cela pourrait poser de sérieux problèmes par rapport aux objectifs de cette nouvelle structure. L'AES devrait devenir une force intégrée. Henri Mongo, on finit par son commentaire. La CEDEAO sert principalement les intérêts des puissances impérialistes, notamment la France. L'AES représente un pilier pour la redécolonisation de l'Afrique, selon le point de vue de Henri Mongo.
Le Sahel, une région à la croisée des chemins. Focus Sahel, votre nouvelle émission sur VOA Afrique.
Crise sécuritaire, montée de l'extrémisme et déplacement de populations et influences étrangères. VOA Afrique braque des projecteurs sur la bande sahélo-saharienne pour vous aider à comprendre les enjeux qui sévissent dans cette région et les événements qui rythment la vie de ces pays.
Retrouvez nos équipes à Washington et nos correspondants sur le terrain pour des reportages, des analyses et des interviews.
Pour tout comprendre sur le Sahel, rendez-vous tous les mardis à 18h temps universel sur VOA Afrique, voafrique.com et toutes nos plateformes digitales.
Le 10 juillet dernier, les autorités ont levé la suspension des activités des partis politiques et des organisations à caractère politique dans le but d'apaiser le climat politique. Dans cette même optique, l'autorité indépendante de gestion des élections a organisé une rencontre avec la classe politique le 15 juillet, suggérant la publication imminente d'un calendrier électoral. C'est un reportage de Mohamed Danyoko.
Ce lundi 15 juillet, ils étaient plusieurs partis politiques à répondre à l'invitation de l'autorité indépendante de gestion des élections. À l'ordre du jour, la reprise du cadre de concertation après plusieurs mois d'arrêt, suite à la mesure des autorités de suspendre les activités des partis politiques. Une occasion pour le président de l'AEJ, Mustapha Cissé, et les partis de se parler et surtout de parler des futures échéances électorales.
Ce nouveau contexte politique, si l'on disait cette opportunité qui est offerte, crée les conditions favorables pour notre cadre de concertation qui apparaît comme la matérialisation institutionnelle du dialogue entre l'AEJ et les partis politiques d'assurer l'organisation et la tenue d'élections apaisées dans notre pays.
Cette initiative de l'AEJ de les associer aux discussions devant aboutir à la bonne organisation des processus électoraux a été très appréciée par les leaders des partis, à l'image de Nuhum Togo, du Parti pour la sauvegarde de la République, même si, au passage, ils notent certains réaménagements indispensables avant la tenue de ces dites élections.
Nous sommes venus écouter les gens pour qu'ils nous proposent quelque chose. Mais ce qui est rassurant, après avoir discuté avec eux, ils nous ont montré par A plus B qu'ils sont prêts. Que sur l'aspect technique, matériel, moyen roulant, logiciel, tout ce que les dispositifs donc, des élections, ils sont aujourd'hui prêts. Pour nous, c'est rassurant. Ça veut dire quoi? Ce qui reste seulement, c'est qu'au niveau de l'administration, au ministère de l'administration territoriale, et au niveau du gouvernement, qui s'asseyent ensemble avec les conservations des partis politiques, on tombe d'accord sur ce léger report qui est arrivé donc, à un report définitif. Actuellement, qu'on trouve la formule ensemble de relever le défi de ce consensus pour que nous puissions aller à un calendrier rapidement.
Observateur de la scène politique malienne et journaliste et reporter à l'hebdomadaire Le Hogan, Tidiani Bamadjo estime que la levée de la suspension et la tenue de cette rencontre de Liège avec les partis est un préalable à la tenue très prochaine des élections.
Nous pensons quand même dans les jours à venir, les autorités de la transition fixeront quand même une date pour les élections à venir. D'abord, il faut comprendre que la levée de cette sanction va permettre aux responsables des partis politiques, malgré que certains soient en prison, certains membres des partis politiques vont donner une opportunité pour eux de s'organiser pour se positionner à la quête du pouvoir.
Si les conditions pour aller aux élections semblent être réunies, le boycott de la rencontre de Liège par le cadre des partis politiques signataires du communiqué conjoint du 31 mars, exigeant la libération de leurs camarades emprisonnés, semble être la seule tache noire de ce tableau. Mohamed Danyoko pour VOA Afrique, Bamako.
Nous restons au Mali où Youssouf Daba Diawara, proche de l'imam Mahmoud Diko, a été incarcéré à Bamako pour opposition à l'autorité légitime après avoir organisé une activité politique malgré une suspension. C'est notre fait marquant de la semaine que nous abordons avec Sekou Tangara de Africa Bleu Télévision, notre station partenaire à Bamako. Sekou, bonsoir.
Bonsoir Eric.
Alors, quel impact l'arrestation de Youssouf Daba Diawara pourrait-elle avoir sur la dynamique politique et sociale actuelle au Mali?
Alors, le premier impact, c'est la confirmation, parce que au Mali, on présumait, on soupçonnait une guerre larvée entre les autorités de la transition et l'imam Mahmoud Diko, d'une part et d'autre part, la coordination des mouvements et associations de soutien qui portent son nom. Donc, cette mise sous mandat de dépôt vient confirmer que ce n'est plus un bras de fer larvé, c'est une guerre ouverte désormais entre l'imam Mahmoud Diko et les autorités de la transition. Oui. Vous êtes sans savoir que l'imam était un allié du régime pendant les premières heures. Il a fallu ce qu'il a été convenu d'appeler la rectification pour que les relations se détériorent entre les deux entités. Donc il n'y a plus de doute désormais, c'est une guerre ouverte entre les autorités de la transition et l'imam Mahmoud Diko.
Quelles pourraient être les conséquences futures pour la relation entre les chefs religieux et le gouvernement militaire malien?
C'est une excellente question, mais à l'aborder, on ne pourra pas dire qu'il y a péril en la demeure si l'imam Mahmoud Diko ne s'entend plus avec les autorités actuelles. Il faut reconnaître qu'il y a d'autres imams, il y a d'autres autorités morales, en l'occurrence le shérif de Nioro, qui ne cache pas son soutien au régime actuel. Au Mali, le shérif de Nioro est réputé pour ne s'être jamais déplacé, pour ne pas quitter fréquemment Nioro, la ville où il vit, mais on l'a souvent vu à Bamako venir participer à des cérémonies pour réaffirmer son engagement, son soutien, tout son soutien aux autorités de la transition. Donc, certes...
Oui, et comment vous percevez-vous la couverture médiatique locale de cette arrestation de Diawara et le mouvement de contestation lié à Diko?
Bon, des journaux annonçaient leur manchette, en l'occurrence l'Alternance et puis l'Alerte. Tous ces deux journaux sont unanimes. Ils mettent dans le même registre l'incarcération de Youssouf Daba Diawara avec celle des 11 leaders politiques qui ont également été mis sous mandat de dépôt pour tentative de déstabilisation des institutions. Donc, pour ces deux journaux, l'Alternance et l'Alerte, ce sont des signes de durcissement questions de radicalisation des autorités. C'est dans ce registre-là que ces journaux mettent cette arrestation.
Merci, Sangara de Africable Télévision. Je rappelle que vous êtes notre station partenaire à Bamako, à Waïgouya, dans le nord du Burkina Faso. L'Association des Jeunes Unis pour le Développement du Lorom œuvre pour soutenir les déplacés internes par le biais d'activités socioculturelles, sportives et de soutien à la création d'activités génératrices de revenus. Cette association cherche à apporter réconfort et espoir à des centaines de personnes contraintes de quitter leur foyer en raison du terrorisme. Découvrez plus de détails dans ce reportage de Gilles Dasta.
Sur scène, la troupe de danse des jeunes de la province du Lorom, dans la région du nord au Burkina. Une troupe constituée uniquement de déplacés internes basée désormais à Waïgouya, à 180 km de Ouagadougou. Lors de cette compétition régionale de danse, les déplacés venus du Lorom avaient atteint les quarts de finale il y a 2 ans. Un exploit qu'ils espèrent renouveler cette année, à en croire Abdallah Traoré, déplacé interne qui coordonne la troupe de danse.
On pense que cette année, on va encore essayer de faire quelque chose. Je pense que le lancement même s'est suivi le samedi. Pour là, c'est un appel aussi. Ceux qui peuvent nous tendre la main, nous aussi, on ne va pas se laisser. C'est vrai que la crise sécuritaire ne nous permet pas de faire certaines choses. Mais nous voulons forcer aussi à le faire pour ne pas mettre les enfants dans la tristesse. Voilà, les amener aussi à sortir un peu de leurs soucis.
Bénéficiaire, Abdallah est aussi membre de l'Association des Jeunes Unis pour le Développement du Lorom, AJDL, une association qui contribue à la prise en charge des PDI venus de cette partie du Burkina. Avec son président Amidou Yabaou, cette association lutte pour le bien-être des déplacés à travers notamment des activités socioculturelles et sportives. Mais sa mission ne s'arrête pas là.
Nous avons vu au niveau des sites de déplacement qui avaient des petits conflits. Parce qu'au niveau des sites, les communautés sont mélangées. Et les autres sont venus des différents villages. Et nous avons recensé les petits conflits. Et à travers nos sensibilisations, il y a eu un changement. Et beaucoup de personnes nous sollicitent même. Et nous félicite
à l'origine. L'association avait été créée dans la commune de Tutaou pour aider à son développement. Mais le terrorisme a contraint des populations à quitter la localité. Bien que désormais basée à Waïgouya, Yabaou et les siens se battent pour soutenir d'autres PDI comme Amsetou Wermi, qui est ici depuis 3 ans.
L'association nous aide. Grâce à elle, nous arrivons à faire de petits commerces. Si quelqu'un t'aide, il faut que tu saches aussi te débrouiller pour aller de l'avant. Nous tirons de gros avantages de leur aide, ça nous profite.
En plus de sa co-épouse, Amsetou et les siens sont une quinzaine qui bénéficient de l'appui de l'association. Comme eux, plusieurs centaines d'élèves déplacés basés dans ce lycée profitent aussi de cette aide. Comme particularité, la JDL aide aussi à la mobilisation des vivres et d'autres biens et matériels qui sont convoyés à Titao, leur localité d'origine, pour le bonheur des populations restées sur place. Bien que loin de chez eux, Yabaou et son association continuent avec les moyens du bord de lutter pour amoindrir au maximum les effets de la crise sécuritaire sur les populations.
Nous chantons chez nous. Et c'est la résilience qui dicte tout ça.
En attendant des jours meilleurs, Amidou Yabaou appelle à plus de soutien pour permettre à chaque déplacé interne de vivre décemment et s'occuper sainement afin de garder le moral haut. Gilles Dasda, Ouagadougou, c'est où ça?
C'est la fin de cette édition de Focus Sahel. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage au Sahel. Merci également à nos invités et à nos correspondants pour leur contribution. Eric Manirakiza a été avec vous. Josèle Morissin et Arzuma Compaoré ont assuré la mise en onde. Au revoir et à très bientôt.